Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom.
Jeudi 10 septembre 2015, nous sommes aux rencontres reliées, les 30 ans de l'association Reliée, des rencontres interassociatives, de débats, de discussions et d'ateliers. Et puis il y a ce jeudi 10 septembre aussi la conférence gesticulée de Nicolas Debré. Salut.
Salut.
Conférence gesticulée que tu vas jouer dans le cadre de ces rencontres, mais que tu as déjà joué à Saillant puisqu'on est à Saillant.
Ouais, j'étais déjà venu sur ma première tournée au printemps dernier, où je suis parti à vélo du Jura et pendant 3 mois j'ai tourné dans toute la France, enfin tout le grand quart sud-est on va dire. J'avais filé l'info à la mairie ici qui était très intéressée, du coup je suis venu jouer à Saillant à l'invitation de la mairie et de l'association Curieuse Démocratie.
Ainsi peut-être les auditeurs d'Erdiwa et auditrices s'en rappellent puisqu'il y avait eu une petite interview de présentation de cette soirée-là où il avait été un peu abordé ce que tu nous proposes ce soir, et on va rentrer dans le détail puisque cette fois tu es avec nous. J'ai avec moi Marianne aussi. Salut Marianne.
Salut.
Et toi, tu avais envie de poser des questions sur la conférence gesticulée et à ce personnage.
Ouais. Moi je connais bien les conférences gesticulées parce que j'en ai regardé plein sur internet. J'aimerais bien en faire une. Ça me turlupine, ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Mon métier, c'est couturière et j'ai plein de choses à raconter. Je sens que j'ai plein de choses à raconter, mais je ne saurais pas le faire. Tu vois, je ne saurais pas organiser tout ce fatras de bazar, machin. Hein. Et je vois bien que ça doit pouvoir se préparer. J'en sais rien, en fait. C'est de l'imaginaire, quoi.
Alors, bah justement, on va... Qu'est-ce qu'une conférence gesticulée, Pascal ? Alors, si toi, tu en as vu plein sur Internet, tant mieux. Moi non. Et plein de gens se demandent ce qu'est... Alors, la conférence on voit, la gesticulation aussi, mais les deux ensemble.
Ouais, non, mais c'est vrai que le mot en lui-même est vraiment pas explicite. C'est devenu ce mot conférence gesticulée, c'est sorti de la tête d'un mec qui s'appelle Franck Lepage et qui a inventé ce concept il y a 10 ans, parce que un peu comme ce que tu disais tout de suite, il avait plein de choses à dire. Il a dit, moi j'ai envie de dire des choses, j'ai plein de choses à raconter et je vais monter sur scène pour les raconter. Et c'est comme ça que Franck Lepage a fait sa première conférence gesticulée à Avignon en 2005. Et quand on lui a demandé comment ça s'appelait, ce truc qui est un peu à mi-chemin effectivement entre une conférence et un spectacle, le mot qu'il a eu, c'est dire « c'est une conférence gesticulée voilà. ». Donc l'idée, c'est vraiment, pour essayer de définir ça, comme on le définit un peu de manière un peu bateau, c'est de se dire c'est quelque chose qui se situe entre la conférence et le spectacle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, du fond qui est abordé, comme dans une conférence, il y a des savoirs théoriques, mais il y a aussi beaucoup d'expériences, ce qu'on appelle le savoir chaud en éducation populaire, c'est-à-dire ce qui vient de notre expérience, de notre vécu. Et puis, il y a un travail pour la rendre théâtrale. Il y a une écriture. Donc ça, les questions que tu te posais tout à l'heure sur comment on fait, c'est aussi une manière d'écrire le fil de cette conférence gesticulée qui va lui donner une dimension spectacle. Quoi.
Parce que la conférence, tu le rappelais, il y a quelque chose d'assez théorique, mais aussi d'assez magistral. Quoi. Parfois, c'est même un peu rude. On peut s'endormir dans une conférence. Mmh. On peut aussi s'ennuyer. Le fait de gesticuler, c'est que... Et pour rapprocher cette notion de spectacle, c'est qu'il y a une mise en scène, que tu vas bouger de là à là, décoller de derrière ton micro finalement, parce que c'est un peu ça la conférence. Et ton PowerPoint.
Ouais, alors après la mise en scène, effectivement, il y a de la mise en scène, mais d'une conférence gesticulée à l'autre, il peut y avoir, c'est pas forcément toujours très poussé en termes de mise en scène. Mais en fait, le côté gesticulation, il est vraiment au niveau de la construction du propos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important d'aller sur du savoir froid, sur des savoirs théoriques, sur un peu le côté, ce que tu disais, le côté un peu magistral. Mais que ce côté-là, il vient pas, il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui va faire, à un moment donné, que la conférence gesticulée, elle a souvent un pouvoir assez magique de captiver l'auditoire et de faire passer des choses, faire passer des éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle...
Tu mets cette notion de spectacle, en fait.
Donc, la notion de spectacle, elle va être... elle est vraiment... mais vous verrez ce soir, quoi. Mais elle est vraiment sur l'écriture, sur le récit, quoi. Le fil du récit qui va... voilà, qui démarre. Moi, c'est un propos, ça dure une heure. Moi, l'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens dans une histoire dès la première minute jusqu'à la fin. Et qu'après, ils disent « Ah oui, j'ai appris des choses. » Mais qu'en fait, des fois, je le rapproche un peu de l'art du conte. Dans le sens où tu vas raconter une histoire et à la fin les gens du coup j'ai appris plein de trucs, ah ouais, je me suis fendu la gueule, ah ouais, c'était, et j'ai pas décroché, quoi. Après il y a un travail aussi sur le jeu, sur la scénarisation, mais quand on construit une conférence gesticulée, l'idée c'est pas d'avoir un truc hyper sophistiqué là-dessus. Après ça dépend du gesticulant, mais le
gesticulant. Donc, pour résumer très rapidement, dans une conférence, on fait des apports théoriques parce qu'on a acquis une expérience ou fait des études qui nous permettent d'affirmer des choses. Là où toi, en tout cas, ce que tu nous racontes de la conférence gesticulée, c'est que tu vas partager une expérience que tu as vécue et la retransmettre de manière à ce qu'elle soit la plus vivante possible. Et peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un gommage du coup de la partie théorique qui vient en filigrane? Effectivement, on en apprend beaucoup, mais c'est tellement bien dilué par le jeu.
Disons qu'il y a, en tout cas, il y a un truc qui est fort, c'est le côté on est légitime pour porter ce savoir parce que il s'appuie sur notre vécu. Et c'est vrai qu'une conférence gesticulée qui s'appuierait pas sur du vécu, ça pourrait pas fonctionner. C'est moi ce soir, je vais parler entre autres de la question de l'organisation territoriale, du fonctionnement d'une mairie, etc. Et je peux le faire parce que j'ai été maire et que du coup j'ai cette légitimité. Et du coup, ce qui est assez magique quand tu pars sur la conférence, c'est que tu pars vraiment de ton histoire, mais que du coup, tu as envie d'aller chercher des éléments théoriques qui vont nourrir ton propos et qui lui donnent de la force. Et ton propos personnel donne vraiment de la force au côté théorique. Et Fred, effectivement, le truc théorique, il va être là à des moments, mais il n'est pas amené en bloc. Et c'est vraiment un propos qui est incarné, quoi. Il y a comme, et ce côté-là, et c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est l'éducation populaire, c'est de se dire, mais tout le monde est légitime, tout le monde a en lui un savoir politique parce qu'il a vécu des choses, et que du coup, il est légitime pour aller dire les choses. Alors que la conférence, il faut être le sachant, le professeur d'université, le spécialiste, machin. Alors que, non, pas que. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que qui puisse transmettre des connaissances aux autres, quoi.
Alors, t'as lâché les mots politique, éducation populaire, évidemment. Donc, tu t'extrais de l'instruction civique bâtarde qu'on pourrait entendre dans une conférence sur la politique. Tu l'as cité aussi, tu as été maire. Alors, on va se faire un petit peu ton historique, puisque c'était aussi pour ça que tu étais invité d'ailleurs à Saillant, qui, on peut le rappeler, a un peu modifié sa manière de se gouverner, en tout cas pour l'instant. Voilà l'expérience d'un maire ailleurs. Alors, rappelle-nous tout ça. De quelle commune, où, quoi, comment?
Bah, faut venir.
Quel bord politique, qu'est-ce que t'as fait?
Non, mais faut que je garde du suspense pour la conférence de tout à l'heure quand même. Quelle commune? Donc moi, je viens du Haut-Jura, une petite commune qui s'appelle Étival. C'est une petite commune de 300 habitants. Et j'ai été élu pendant 10 ans dans cette commune-là.
Mais t'as commencé par être simple conseiller.
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai été conseiller, puis d'un seul coup, je me suis retrouvé maire, et voilà. Comme
parce
ça,
que tu
le jour au lendemain. Ouais, non, mais bien sûr.
Vas-y, cette année, c'est toi.
Mais après, il y a toujours. Pareil, c'est sur la côté légitime au début. C'est rare que toi-même, tu te dis oh, bah, tiens, moi, je suis super légitime pour être le maire. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté un peu sollicitation de l'extérieur. Mais je l'ai fait parce que je le voulais, quoi. Je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui prenne le truc, quoi.
Enfant du pays?
Non. Raterait, comme on dit dans le Haut-Jura, quoi.
Ouais. Sur du DDO.
Ouais, voilà, ouais. Non, j'étais pas un archéo.
DDO?
J'étais les néo.
Les néo-ruraux, quoi.
Ou les archéos. Enfin, les néo contre les archéos, quoi, versus. Et j'ai débarqué dans la commune en 2002, et en 2004, j'étais conseiller municipal, et en 2007, j'étais maire, quoi. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu... C'était assez surprenant, quoi. Et donc, du coup, j'ai été élu pendant 10 ans. Et quand tu disais quelle étiquette, moi, j'ai jamais été encarté. Après, je suis un maire de gauche, enfin de vraie gauche. Et les gens le savaient, bien sûr. Mais dans une équipe vraiment très
plurielle.
Et ouais, très plurielle et au-delà de la gauche, quoi. C'est-à-dire, il y avait. on avait tous nos sensibilités, et moi je crois beaucoup plus à ça au final, de dire à un moment donné, si on veut être représentatif, si on est partisan, si on est que des partisans d'un côté, on n'est pas représentatif, quoi. Donc,
c'est peut-être les limites de cette expérience-là, c'est que dans un petit village de 300 habitants, ça paraît évident, quelque chose comme ça. Même le contraire serait compliqué, même pour un maire de droite avec des gens qui ont aussi leur leur pluriel.
Ouais, ouais, bien. Mais c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, sur les scrutins de liste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es au-dessus de 1000 habitants, la préfecture oblige à faire que tu te positionnes, que ta liste elle soit positionnée droite, extrême droite, gauche, extrême gauche, etc. Et, ouais, ou centre droit, centre gauche, mais même centre centre, je crois que la préfecture il y a pas de et du coup c'est complètement absurde, quoi, parce que tu peux avoir des listes. Du coup c'est vraiment un truc qui a été, je trouve que je vois pas vraiment le sens de ça, au contraire, quoi. C'est hyper clivant, quoi. Ben oui, alors que à la base les listes à l'échelle d'une commune, il y a de tout, quoi. Il y a de tout bord, quoi, et heureusement. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Sinon on est juste on chope le pouvoir pour faire passer nos idées, mais si on veut, enfin, pour moi j'estime qu'une vraie démocratie doit fonctionner avec un partage des responsabilités avec des gens de tout horizon, quoi.
Alors toi, Nicolas Debré, quand tu deviens maire en 2007, tu te dis quoi? Est-ce que je m'y connais? Suis-je légitime? Est-ce que tu vas t'instruire sur ce que tu dois faire? Ou est-ce que tu as laissé venir et tu as vu? Parce que évidemment, la secrétaire de mairie, qui elle ne change jamais, est très très forte pour nous aider.
Alors moi, il y avait un petit truc en plus, c'est que moi, quand je suis arrivé, la secrétaire de mairie avait démissionné depuis 3 mois, et du coup, il y avait un tas de dossiers énormes sur les bureaux. De trucs. Donc du coup, si tu veux le côté de t'instruire, t'as pas le choix, quoi. Et à un moment donné, il faut t'y mettre. Et
alors, tu vas où pour t'instruire?
Il y a rien de tel que le concret, quoi. Donc tu te coltines les dossiers. Et, après, il y a des espaces de formation, mais je me rends compte que j'en ai pas assez profité, j'en ai même pas assez connaissance. Maintenant, je les croise maintenant, mais il y a rarement de temps d'aller se former ailleurs, quoi. C'est vraiment une formation, c'est vraiment une grosse formation sur le tas. Avec les personnes compétentes que tu vas croiser, voilà, tu dois travailler sur la gestion forestière, bah, t'as les mecs de l'ONF, t'as le bûcheron du coin, t'as si, enfin, et par contre, c'était la plus grosse formation de toute ma vie, c'est sûr. Y compris sur les trucs de pompes funèbres, que tu connais rien du tout et qu'il faut quand même gérer aussi, quoi.
Et puis, donc, tu parlais de tous ces conseillers aussi de plusieurs bords, et quand même, dans les villages de 300 habitants, même si dans les petites villes de 4000, ça se fait ressentir aussi, ou à des échelles plus réduites, il y a le lien social entre toutes ces personnes, les relations de voisinage, les empiètements de terrain.
Bah, entre autres, c'est pour ça que les gens étaient contents que je prenne le poste. Ils sont nés, hein, c'est un mec qui vient pas de là, donc il a pas toutes les histoires de famille, parce qu'il y a quand même 3-4 grosses familles. Pour ça, les gens appréciaient. Et ouais, une grosse partie du boulot, c'est la question de comment on fait pour habiter ensemble sur un territoire avec des gens qui supportent pas et qui ou de toute manière, voilà, on est voisins, donc forcément, et ça déborde dans l'espace public, et ça c'est ça consomme beaucoup d'énergie. Et j'avoue que quand j'ai arrêté en 2014, ça m'a beaucoup reposé, entre autres sur cette question-là, parce qu'ils avaient eu des choses qui était vraiment dur à gérer là-dessus. Mais après, moi, je l'ai toujours dit, mais je fais le job. Ça fait partie complètement du truc, de faire qu'on arrive à vivre tous ensemble sur ce bout de terre-là.
On est en 2015, donc ça fait un an que t'es plus maire. Un tout petit peu de recul, est-ce que tu serais capable de définir le rôle que t'as eu dans cette commune-là? Peut-être un peu avant, le rôle qu'on t'a donné? Toi, néo, le, je sais plus, je me rappelle plus du terme.
Après, je me rends compte, il y a un peu, tu vas avoir deux grandes tendances au niveau des maires. Historiquement, le maire, c'est quand même le bâtisseur, quoi. C'est là, culturellement, c'est ça, c'est celui qui va construire.
Ou au pire, celui qui maintient.
Ouais, au pire, oui, t'as le maire, le bon père de famille. Ça c'est le grand classique. Ancré bien profond chez nous, le bon père de famille qui va gérer les trucs, voilà, pas prendre trop de risques, etc. Et puis le maire, l'image du bon maire, c'est le maire bâtisseur qui arrive à construire des choses, une belle salle des fêtes, etc. Et par contre, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a quand même une culture qui est en train de bouger avec le maire animateur. Quoi. Et moi, c'est clairement ce que je portais, c'était vraiment ma posture. Mon métier, c'était ça, j'étais animateur, formateur. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans l'humain, au milieu de l'humain, au milieu de groupe. Et du coup, c'est vraiment comme ça que je voyais mon rôle et que ça s'est confirmé petit à petit. Quoi. C'était vraiment animer un espace en essayant de faire que chacun ait envie de s'impliquer, voilà, motiver les gens à venir s'impliquer. Après, il y a un moment donné, forcément, tu as une expertise parce que toi, tu y passes plus de temps que les autres. Donc, tu maîtrises mieux les dossiers que les autres. Mais voilà, moi, c'était vraiment mon leitmotiv, ça a été d'animer une dynamique collective dans cette commune. Quoi.
Et maintenant, le rôle que tu penses qu'ils t'ont donné ?
Vraiment, c'est ça aussi qui les intéressait dans ma posture et dans ma démarche. Et pour ça, je pense qu'ils faisaient un peu tous la gueule quand j'ai dit que je ne me représentais pas.
C'était la prochaine question. Ça. Est-ce que tu leur manques?
Ouais. Ça dépend à qui. Je pense qu'il y en a certains. Quand on te dit bon, bah ça y est, on va pouvoir retrouver un peu des choses sérieuses, quoi, tu vois. Ouais. En plus, en même temps, j'avais développé une activité d'agitateur de particules démocratiques. Donc du coup, mais quand même, globalement, j'ai l'impression que c'est plutôt les gens regrettent. On est retombé avec un très grand classique au niveau de mon remplaçant. Et je crois que ça sent, ça fait défaut, quoi. Et les gens l'expriment comme ça. Après, voilà, t'as toujours tout le monde s'y retrouve pas forcément avec le même type de mère non plus, quoi.
Donc c'était un passage peut-être qui était nécessaire pour ce village-là. Finalement, tu arrives au moment où il faut que ça se passe. Tu décides de le quitter pour faire autre chose et on va en parler maintenant. Est-ce que par contre, toi, tu regrettes de ne pas t'être représenté en 2014? Ou y reviendras-tu même?
Voilà, plutôt, ouais. Ouais. Mais non, je ne regrette pas d'avoir arrêté parce que déjà, cumul des mandats dans le temps, je trouve que c'est pas forcément très sain non plus.
Ah, très bien.
Parce que aussi ça m'a donné quand même très égoïstement une grosse bouffée d'air de plus avoir cette charge là sur les épaules, donc faut l'avouer, c'est pas juste la question du cumul,
tu revis quoi.
Quand même, ouais, ah, ouais, tu retrouves j'ai pas 4 soirs dans la semaine pris par des réunions, mais c'est génial en fait. Donc quand même, donc ça je regrette pas. Après, sur la question est-ce que j'y retournerai, et oui, il y a des chances. J'en sais rien, parce que je prends ce qui vient, mais je vois bien que ça continue à me passionner. Et là, en plus de tourner depuis 4-5 mois maintenant, un peu partout en France avec cette conférence gesticulée, de voir ce qui se passe, d'être venu ici à Saillant, de voir ce qui se passe dans d'autres coins, etc. Ça donne des idées pour faire encore différemment, quoi. Avec la question de se dire est-ce que finalement la commune, ça reste encore un échelon pertinent pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Et l'exemple ici, c'est pas plus haut en termes de fonction pour moi, mais c'est en termes de dynamique, quoi, de se dire ok, c'est très bien, moi je suis très admiratif sur ce qui se fait ici, mais je vois aussi les limites ici à Saillant par rapport à le fait qu'il soit marginalisé comme ça au niveau de la communauté de communes, et qu'aujourd'hui on voit bien que l'échelon démocratique qui a encore des pouvoirs de faire des choses, il se situe plus beaucoup à l'échelle de la commune, malheureusement, quoi.
Ouais, c'est étonnant là où beaucoup de gens pensent que ça reste le dernier endroit intéressant où voter, par exemple.
Ouais, parce qu'on
se sent proche.
Ouais, parce que les gens ils sont encore vachement attachés au personnage du maire, parce qu'ils connaissent encore les choses, mais ils se rendent pas compte, et c'est aussi le sujet que j'aborde dans ma conf. À quel point on est en train de dévitaliser totalement la commune, et que c'est sûr que là ça provoque pas de remous parce que personne s'en rend compte. Mais les communes, là avec ce qui se passe en ce moment sur les lois de réforme territoriale, elles auront vraiment bientôt plus lieu d'être, quoi.
Allons-y, pour toi le prochain échelon c'est de toute façon la communauté de communes au plus réduit, et puis après la région directement.
En tout cas, dans ce qu'ils veulent dessiner aujourd'hui et ce qui est accepté par. qui fait consensus complètement au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la gauche, et puis parce qu'il s'appelle encore un peu la gauche, il paraît. En tout cas, on voit bien que leur vision, elle est complètement là. Après, voilà, c'est aussi à nous, citoyens, à nous, élus locaux, des petites communes, est-ce qu'on a envie de... Est-ce que ça, on l'accepte? Et puis à ce moment-là, ok, effectivement, l'échelon, ça sera Comcom et puis région. Ou alors, on veut encore que la commune, elle joue un rôle, mais faut se réveiller parce que ça sera trop tard, quoi, bientôt.
On était au conseil communautaire, donc le conseil communautaire de Jura Sud, hein, c'est une assemblée, comme ça, il y a 44 personnes avec des élus de chaque commune. Donc moi, c'est ce que j'appelle une assemblée de vieux mâles blancs. Vieux, parce que la moyenne d'âge autour de la table est plutôt autour de 60-65 ans, voire plus. Mâle, parce que 80% des personnes qui siègent autour de la table sont des hommes, hein, voire 85% même. Et puis blanc, puisque même si Jura Sud, on a un territoire d'immigration, autour de la table, il n'y a que des blancs. Voilà. Et donc, pendant ce dernier conseil communautaire du mandat, on avait le chef des vieux mâles blancs, hein, le président de la communauté de communes, qui nous faisait un propos liminaire pour nous expliquer que dans les années à venir, ça allait être un petit peu compliqué pour les collectivités communes. Et puis, à la fin de son propos, il demande à l'Assemblée s'il y a des gens qui voulaient réagir. Mais je sais pas si vous avez déjà pris la parole dans une assemblée de vieux mâles blancs. C'est pas facile, hein, hein. Non, mais déjà, il y a une espèce comme ça d'ambiance hyper solennelle où tu te dis, là, si je prends la parole, c'est pour dire un truc super intelligent, quoi, hein.
Peut-être qu'il est encore temps de se battre. On va pas aller plus loin sur ce vaste débat. Citoyens, citoyennes que vous êtes, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu et puis peut-être à prendre votre rôle en main. C'est pas le bon terme, tiens. Prendre votre destin en main. Voilà. Nicolas Debray, conférence gesticulée. Et maintenant, on va parler de ça. Marianne, tu es toujours là. Tu poses une question quand tu as envie.
Ouais. Tiens, alors. Tout à l'heure, hors micro, tu m'as expliqué que pour faire une conférence gesticulée, tu vas sur Internet, tu trouves la SCOP, l'orage, ça se trouve à Grenoble, ok. Et les questions subsidiaires, c'est ça va me coûter combien ?
Ça va te coûter pas mal de temps. Voilà, il faut que tu aies du temps à passer. Alors moi effectivement je l'ai faite dans un programme de formation qui était proposé par l'Orage et puis Franck Lepage. Le prix public est à 2 400 € pour suivre la formation. Après c'est les coopératives qui s'adaptent en fonction des prises en charge, formation, etc. quoi. Donc après du coup moi c'était...
D'accord, donc ça peut rentrer dans un plan de formation.
Donc du coup ça peut rentrer dans un plan de formation. Moi il y a eu une partie qui était financée par la formation, par mon plan de formation dans la coopérative dans laquelle je travaille, quoi. Donc oui, c'est de la formation professionnelle. Mais après, ce que je te disais, ouais, c'est surtout le temps. Parce que c'est vrai que... Enfin, je rebondis juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui me paraît vraiment vachement intéressant dans les conférences gesticulées, c'est la dimension contagieuse. C'est-à-dire que tu disais, j'en ai vu et j'ai envie d'en faire une. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, y a plein de gens qu'on a vu et qu'on a envie d'en faire, et qu'il y en a plein de gens qu'on en fait. On a une cinquantaine aujourd'hui.
Bah ouais, on a tous une histoire.
Et voilà.
Un parcours, quelque chose de particulier qui peut être, j'ai envie de dire mise en scène, mais c'est pas tout à fait ça, qui peut être montré plutôt.
Ouais, ouais.
Mise en scène, parce que mise en scène, c'est trop grand.
Oui, mais c'est tout le monde a des choses à. Tout le monde peut monter sur une scène et a des choses à raconter. C'est vraiment le principe des conférences gesticulées. C'est pour ça que, en ce moment, il y en a une cinquantaine qui tournent en France sur plein de sujets différents. Et du coup, dans ce que je te disais, ça demande du temps parce que c'est vrai que c'est un processus assez long. Tu as les temps de formation, mais les temps de formation, en fait, ils sont plus là pour partager avec des conférenciers gesticulants qui sont dans la même démarche que toi. Mais après, c'est vraiment comment tu mets tout sur la table et puis petit à petit, tu arrives à faire un pulse qui va au bout du compte donner une conférence gesticulée, quoi.
Question à tous les deux, pourquoi vous avez envie et pourquoi tu as eu envie et maintenant tu le fais, et pourquoi toi tu as envie de faire une conférence gesticulée?
Pour partager. Le savoir, ça se partage, ça se garde pas pour soi tout seul, ça a pas de saveur.
Alors par exemple, toi Marianne, les auditeurs le voient pas mais le savent.
Bah ouais.
Tu tricotes sans cesse sans même regarder ton tricot.
Je planque mon tricot sous la table. C'est une chaussette.
Alors, là, t'es en train de faire une chaussette à sans même jeter un coup d'œil dans le truc.
Si, de temps en temps, quand même. Je vérifie où j'en suis et tout ça. C'est pas trop ça que j'ai envie de partager. En fait, ce que j'aurais envie de partager, c'est... je fais de la couture. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent aussi depuis pas mal de temps. Et j'ai accumulé du savoir sur quelque chose qui nous touche de très près tous. Un vêtement, ça vous touche de très près.
Ah, c'est pas mal.
Et vous savez pas ce que vous avez sur la peau. Et j'aimerais bien vous le dire.
On a un paquet de merde. Hein, on a un paquet de merde
sur la peau. Et j'aimerais bien vous le dire, mais vous le dire en rigolant, pas vous faire rire.
Ouais.
Je veux pas vous faire la morale. Je veux pas, je sais pas quoi, tout ça. Non, qu'on rigole. Et toutes les conférences gesticulées que j'ai vues. J'ai trouvé le moyen de rigoler. Des fois, pas trop, mais à chaque fois, au moins une fois. Donc, voilà. Que ce soit drôle.
Et toi, Nicolas ?
Tu mets un peu la pression, là. Je ne sais pas si je vais être drôle ce soir. Je ne sais pas si je vais te faire rire, mais bon. sur ta question, qu'est-ce qui m'a donné envie ?
Comment tu passes en 2014, j'ai... t'arrêtes d'être mère ? Est-ce que d'entrée de jeu, tu te poses cette question-là ? Je vais faire une conférence gesticulée.
Moi, j'ai complètement flashé sur la forme, quoi. Quand je suis allé voir une première conférence gesticulée que j'ai vue de Franck Lepage, là, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est absolument génial comme outil, parce qu'il y a du fond, il y a un fond politique qui est vraiment là, et tu ressors de là, ça te donne la patate, et ça a duré 3 heures, t'as pas vu le temps passer. Donc moi, vraiment, la forme m'a dit, mais moi, quand je serai grand, je voudrais faire une conférence gesticulée.
Et tu l'as vu quand t'étais maire ?
Ouais, j'étais maire, ouais, c'est ça, c'était en 2000, j'ai dû le voir en 2008, 2009, par là, mais à ce moment-là... Bah parce que c'était programmé, à la maison du peuple à côté de chez moi. J'avais déjà entendu parler, on m'avait dit ah ouais tiens. Et du coup je suis allé voir comme ça, mais vraiment je connaissais pas. Et quand j'ai vu cette forme là, je me suis dit mais c'est génial. Et moi quand je serai grand, c'est sûr je ferai une conférence gesticulée et je savais pas sur quoi encore. Et donc petit à petit, hop, ça, l'idée fait son chemin. J'ai vu qu'il y avait des formations qui pouvaient t'accompagner pour l'écriture. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être bien. Tu fais pas ça tout seul, t'es avec d'autres personnes. Là, nous, on était 10. Enfin, en même temps de ces réflexions, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je pourrais transmettre, moi ? Ça pourrait être quoi le sujet de ma conférence gesticulée ? Et puis après, du coup, assez naturellement, c'est venu sur cette idée de... J'ai dit, oui, tiens, c'est quand même... Il y a une expérience singulière en tant que mère. J'ai sûrement des choses à dire qui peuvent être... qui peuvent intéresser aussi les gens, quoi. Et du coup, c'est comme ça que c'est arrivé, quoi.
Alors, on va continuer de se donner des ficelles sur RDOA avec toi, Nicolas Debré, avec Marianne, hein, pour toi, Marianne aussi. Une fois que tu sais que tu as envie de faire une conférence gesticulée, maintenant que tu as trouvé ton sujet, tu vas parler de ton expérience de mère. Quelles sont les choses que tu vas mettre en avant, que tu penses indispensables, qui doivent être dites, voilà, dans cette conférence-là ? Et parce que, évidemment, et on vient de le dire en introduction de cet entretien, un maire, c'est divers, c'est plein de choses, c'est les pompes funèbres, c'est plein de trucs. Alors, ça peut être rigolo d'en parler, mais dans le fond, quelles sont pour toi les valeurs à transmettre de cette expérience de maire ?
Bah en fait, au début, ça ne devient pas naturellement en disant « Ah ouais, c'est ça, c'est mon atterrissage politique, hein, ce qu'on appelle l'atterrissage politique, c'est-à-dire c'est quoi le message final ?» Au début, il n'est pas si évident que ça. C'est vraiment dans le processus où tu fais... dans ce travail qui n'était pas loin d'ici, là, c'était à Bouvante qu'on était les 10 à travailler ici. Au début, t'explores. Quoi. T'explores toutes les choses que t'aurais éventuellement envie de raconter. Et puis, petit à petit, le fil arrive. Et sachant qu'il y a quand même aussi une dimension très politique dans l'histoire de la conférence gesticulée, puisque Franck Lepage, lui, clairement, dit la conférence gesticulée, c'est un outil pour abattre le capitalisme. Hein, donc il y a un parti pris politique fort, radical, sûrement beaucoup plus radical que moi je peux l'être dans ma posture. À un moment donné, c'est de se dire... le but, c'est de donner envie à... que les gens derrière puissent se projeter dans l'action, quoi, sur des choses sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles c'est pas simplement de faire un constat, juste dresser un grand constat, de dire bah voilà c'est quoi la vie d'un maire. Si c'est juste ça, si c'est juste présenter la vie d'un maire, je me dis ça aura pas forcément d'intérêt
Mais
politique.
Comment t'as
quoi.
Fait du coup pour pas tomber là-dedans ?
Mais c'est vraiment petit à petit, tu construis ton fil d'histoire. Tu dis, bah tiens, je pourrais parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, tu as vraiment toute ta matière avec tes histoires, tes anecdotes, ton fil. Et puis, après, petit à petit, tu identifies. Et puis, tu dis, ah bah tiens, si, ouais, quand même, là, par exemple, moi, ce qui est en train de se passer sur la réforme territoriale, là, je sens qu'il y a quelque chose qui a travaillé là-dessus. Donc, hop, c'est un des fils. En fait, on utilise beaucoup la métaphore du Scooby-Doo quand on écrit une conférence gesticulée, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs fils. Et c'est des fils qu'on va tirer comme ça et qu'on va tresser entre eux. Donc moi, par exemple, il y avait un fil qui était sur cette question de la réforme territoriale. Il y avait un fil qui était sur le lien entre les habitants et les élus, la question de la démocratie. Donc voilà, tu identifies comme ça des choses. Et puis, au milieu, tu vas mettre tes anecdotes qui te paraissent intéressantes, rigolotes ou qui amènent un peu d'air dans ton propos. Tu vas aller chercher des éléments théoriques, de dire, ah bah tiens, en fait, les communes, quand c'est qu'on a créé ça? Comment ça, c'est l'histoire des communes? Et puis, c'est toutes ces fils que tu as. Et puis après, tu tresses, puis tu essayes de trouver un équilibre pour faire que ton propos, bah, il soit riche, qu'il amène, qu'il ouvre, qu'il donne vraiment... Voilà, ça doit être un truc qui soit stimulant, qui donne envie de réfléchir plus, qui donne envie d'agir, voilà, qui soit pas juste, tiens, j'ai pris pendant une heure des infos, quoi.
Comme ça, on arrive à...
Ça fait envie.
Ouais, ça fait envie, ça fait envie. Et aussi, je me demandais, du coup, si dans ces grands thèmes que, du coup, t'as identifiés, est-ce que tu te sens pas, à un moment donné... périmable, enfin c'est pas le bon terme, mais est-ce que ta conférence gesticulée d'aujourd'hui avec ton expérience de 2007 à 2014, on le rappelle comme maire, va être encore valable là dans 3-4 ans?
Il y a besoin de faire des mises à jour en permanence, quoi. Moi, il y a des choses qui sont il y a eu des nouvelles lois qui sont passées au mois d'août qui viennent alimenter la conférence. Donc, tu es obligé d'être en veille sur ce qui se passe, d'aller suivre les infos là-dessus. Donc, ça, c'est évident. Et puis après, le côté périmable, je verrai, quoi. Peut-être un jour, pour le moment, ça tourne. Peut-être un jour, j'estimerai qu'elle n'est plus du tout d'actualité et que c'est l'heure pour elle d'arrêter de tourner. Donc, ça, mais on verra, quoi.
Moi, je pense que l'actualité, ça se nourrit au quotidien. Et dans ce que j'ai vu des conférences gesticulées, il me semble qu'il y a une part laissée à l'improvisation et que, il y a un côté écrit, ça se sent, mais il y a aussi un côté très émouvant où tu peux rajouter des choses facilement, en enlever, modifier... puis un jour, t'es luné comme ça, et ça, tu le dis pas, ou tu le dis après, ou tu le dis avant. Enfin, il me semble qu'il y a une certaine liberté dans cette forme-là. Donc, pour moi, la question de l'actualité... pour une couturière, moi, la question de l'actualité, je m'en fous royalement.
Et bien maintenant, je vais m'adresser à Nicolas Debray, à l'artiste, puisque tu deviens un artiste, tu fais des tournées, tu tournes avec ton spectacle, conférence gesticulée ou pas, n'empêche que tu tournes... avec un spectacle. En vis-tu? Est-ce que cette vie de troubadour, de droite à gauche, te sied? Et puis la question, voilà, combien de temps est-ce que toi-même tu te vois faire ça? Est-ce que c'est une vie moins trépidante que celle d'être maire tous les quatre soirs en réunion, là, tous les trois week-ends en haut ou en bas de la France?
Ouais, sur la question est-ce que j'en vis, oui, aujourd'hui c'est devenu. Une partie de mon activité principale, enfin surtout depuis le mois d'avril. Après, là, je vais reprendre aussi mon activité d'agitateur de particules démocratiques en parallèle. Du coup, vivre que de ma conférence gesticulée, c'est quand même un peu compliqué. Mais là, ça fait quand même... ce soir, c'est la 35e en un an. Donc voilà. Après, je me débrouille toujours aussi pour le proposer... Voilà, qu'elle puisse se jouer, si les organisateurs ont pas de rond, de pouvoir faire au chapeau, enfin on se débrouille, voilà. Donc le but est vraiment de la jouer. Après, je me considère toujours plutôt comme un éducateur éducation populaire, plus que comme un artiste, même si ça peut y ressembler un peu. Mais l'idée
c'est
aussi...
Pas intermittent, tout ça, quoi.
Non, en plus, je ne suis même pas intermittent. Je suis toujours...
Tu es obligé
d'être artiste. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, je suis resté au régime général, parce que de toute façon, maintenant, pour être intermittent, il faut quand même être courageux.
35 concerts en un an
Oui, ça aurait presque pu, mais bon.
Ça s'approche. Hein.
Mais bon, Du coup, non, c'était un choix aussi de rester au régime général en coopérative d'activité. Le principe aussi, alors ce soir, on va le faire en mini, mais c'est vraiment aussi d'avoir la conférence, mais derrière, de pouvoir animer des ateliers, que ça soit pas juste la conférence, je viens, je fais un spectacle et je repars. Et du coup, ce soir, on va faire une formule un petit peu mixte, c'est-à-dire qu'il va y avoir le spectacle, que je appelle un spectacle, voilà. Et puis après, un temps aussi d'échange qui sera animé avec les participants, quoi.
Voilà, donc un artiste, mais qui fait quand même aussi de l'éducation populaire. Ça se voit de plus en plus. Hein. Maintenant, on ne vient plus faire qu'une résidence dans un théâtre ou consommer un lieu pour vendre son spectacle. On vient aussi en parler autour, dans les écoles, etc. Tu nous as parlé plusieurs fois de cette coopérative. Qu'est-ce que c'est donc ?
Alors, moi, je suis dans une coopérative, mais qui est juste une coopérative d'activité et d'emploi classique, on va dire, ce qu'on a en France aujourd'hui, qui a un statut qui se développe, c'est-à-dire qu'on est entrepreneur salarié. Donc, je suis à mon compte, dans le sens où j'ai développé mon activité tout seul, mais avec 140 collègues, on mutualise l'administratif et on se débrouille pour être salarié plutôt que... Ouais. Bon, après, c'est sur toute la Franche-Comté, c'est... Voilà, ça... Ça représente du monde et vraiment plein de métiers différents, quoi.
L'intérêt de ça ?
Bah, l'intérêt, c'est que moi, je crois fort encore au salariat, quoi. J'ai envie de... J'ai des formes beaucoup plus libérales qui seraient beaucoup plus intéressantes économiquement pour moi, en entreprise individuelle, voire auto-entrepreneur. C'est sûr que je gagne...
Entrepreneur, c'est quand même un statut...
Économiquement, c'est imbattable, hein, c'est imbattable. Enfin, si on raisonne en court terme, quoi, c'est-à-dire mais beaucoup de gens raisonnent comme ça. Et du coup, c'est sûr que quand t'es en salariat, ça coûte beaucoup plus cher. Nous, on laisse 10% à la COP, après on paye des cotisations salariales, patronales, normales. Mais en fait, c'est des cotisations, quoi. Donc moi, c'est avant tout, c'est surtout militant aussi par rapport à cette forme-là. Moi, j'ai envie de cotiser. En France, il y a 10 millions de chômeurs.
Milites l'idée que ton salaire est suffisant et que tu n'as pas besoin de...
Oui, bien sûr. Et oui, je gagnerais plus dans ma poche si j'étais avec une autre forme d'entreprise. Mais à un moment donné, le système de solidarité, il me paraît quand même assez essentiel. J'ai l'impression qu'on l'oublie un peu, quoi. Donc voilà, c'est ce côté militant. Après, on est chacun dans nos activités, donc c'est pas comme les coopératives d'éducation populaire où là ils se retrouvent à des bandes de 5, 6, 7 activistes à faire l'éducation populaire. Moi, je travaille tout seul ou avec d'autres collègues en réseau, quoi.
Et ton activité, c'est donc d'être agitateur de particules démocratiques.
Ouais, c'est ce que j'ai lancé il y a 3 ans maintenant. C'est mon entreprise, enfin l'activité que j'ai lancée était vraiment sur cette base-là. Et l'idée est toujours un peu de mêler ces compétences entre techniques d'animation et spectacle et en fait moi je mets mes compétences au service de groupe pour animer des temps démocratiques pour réussir à se dire la démocratie ça prend du temps mais on peut être efficace.
Par exemple
je vais
dans quoi on t'invite?
Ça peut être là il y a une entreprise une SARL bordelaise en ce moment qui ils sont pas en scope mais ils ont vraiment envie de travailler avec une dynamique de scope. Et puis, ils se rendent compte que dans leur fonctionnement au quotidien, ils ont un peu du mal à faire que ce ne soit pas les deux historiques qui prennent toujours un peu le dessus sur les décisions, à faire qu'ils arrivent à être efficaces dans leur prise de décision en étant démocratiques. Donc là, ils m'ont invité pour 4 jours, là, cette fin d'année, pour aller les accompagner sur apporter des méthodes, des techniques d'animation qui permettent de concilier un peu ces éléments... efficacité et démocratie, quoi. Voilà, de trouver des curseurs. Et puis des fois, c'est des gros événements avec 50, 80, 200 personnes où on se dit, tiens, on a envie de faire un séminaire, mais on n'a pas envie que ce soit chiant. On veut faire une plénière, mais j'amène un peu de l'énergie dans les groupes pour dire, un groupe, pour que ça fonctionne, il faut mettre du jus à l'intérieur et moi, je m'occupe de ce boulot-là, quoi.
Et il nous dit ça en gesticulant. Donc il va gesticuler un peu partout.
Voilà.
Nicolas, du coup, soyons complets puisqu'on te taille un très beau portrait là. C'est quoi ta formation ? C'est quoi ton vrai métier ? Tu es éducateur ?
Ouais, à la base, j'ai une formation. J'ai une formation d'animateur dans l'éducation à l'environnement. parce que j'ai bossé pendant 10 ans donc un BEATEP à l'époque où il y avait encore des BEATEP, donc un BEATEP plus, environnement avant les BPGEPS. Donc voilà, ça c'est mon diplôme de base. Et puis après, c'est vraiment une formation au fil du temps sur agent de développement local, sur formateur, des formations de formateurs, médiation, communication non violente, clown, théâtre, etc. Enfin, c'est toutes des petites expériences comme ça qui sont venues nourrir petit à petit. Puis voilà, puis un jour j'ai dit, bah tiens, j'ai quoi dans mon sac ? Et c'est comme ça que j'ai dit, bah tiens, je vais faire agitateur de particules démocratiques, quoi.
Allez, une dernière fois sur ta conférence gesticulée que tu produis donc ce soir, jeudi 10 septembre, dans le cadre des 30 ans de l'association Relier, ici à Saillant. Et d'ailleurs, on les a cités tout à l'heure, on est sur la commune de Saillant, mais on est sur un site de la communauté de communes, alors rendons leur honneur. Pas très loin d'ailleurs du camping que j'ai envie de saluer aussi, puisqu'ils nous ont prêté moult tables et autres mobiliers. Ta promo, comment on t'invite pour faire une conférence, voire même pour agiter des particules démocratiques, l'un et l'autre, des sites internet, des numéros de téléphone, tout ce qui sera bon?
Ouais, bah en fait, il faut aller sur internet, il y a tout. C'est un site, ça s'appelle nicolasdebray.org. Mais si vous mettez agitateur de particules démocratiques, ça marche. Si vous mettez un maire de famille, quel nom de la conférence gesticulée, ça marche aussi.
Ouais,
et du coup, toutes les infos et sur les dates, parce que là, il y a pas mal de dates en prévision cet automne. Là, il y a une quinzaine de dates d'ici la fin de l'année un peu partout en France.
Ouais, il va arriver à son intermédiaire.
Et puis, il y a toutes les infos sur ce que je propose en animation, en formation, etc.
Voilà, un seul site, donc nicolasdebray.org. Voilà. On va le mettre sur la page de cette émission. Est-ce que tu veux une parole libre maintenant ?
Bah non, juste merci quoi.
Bah merci à toi. Bonne conférence tout à l'heure et merci Marianne également. Toi, tu veux rajouter un truc ?
Non, merci. Merci pour toutes ces infos. J'ai encore plus envie, ça va pas s'arranger.
Tu vas y aller, c'est bon.
Faut que je dégage du temps. J'ai compris que faut que je dégage du temps là. J'ai des travaux en perspective. Oh là là. Ouais.
Parce que ton processus d'écriture, par exemple, tu l'estimes à combien de temps ?
Donc il y a 12 jours de formation en groupe.
Voilà.
Et
12 jours d'affilée ?
Non, c'est 4 fois 3 jours. Et sur la dernière session, tu joues en public. Ouais, on jouait il y a un an au Prunier Sauvage à Grenoble. Donc ça c'est la dernière session. Donc avant il y a 3 fois 3 jours de d'écriture de confrontation, puis après à côté je pense une bonne vingtaine de jours, 20 à 30 jours complets, sur l'écriture en plus.
Ok, nous voilà prévenus.
Ouais, et encore si t'écris vite, parce que lui t'es habitué, il sortait
plein
de dossiers.
J'écris pas très vite.
Voilà, quand on est maire, on tabasse l'écriture. Nicolas Debray, merci beaucoup.
Merci à toi, à vous.
Voilà, et je voulais citer que quand même on a été accompagné en fond musical par les formations Fat Freddy's Drop, Onda Tropica, Antibalas Afrobeat Orchestra et le compositeur français Hugues de Courson sur le projet Lambarena Back to Africa. Merci à toutes et tous et à bientôt sur RDIWA.
Bye bye.
L'autre pouvoir officiel du maire, c'est de siéger, de présider l'instance démocratique de la commune, le conseil municipal. Enfin, instance démocratique, ça dépend un petit peu de nos références. Hein. Moi, je sais qu'il y a une définition qui circule dans les coopératives d'éducation populaire sur la démocratie qui me plaît bien, qui est inspirée des écrits du philosophe Paul Ricoeur, qui dit « Est démocratique une société qui se reconnaît traversée par des contradictions d'intérêts et qui se donne comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, dans l'analyse de ses contradictions d'intérêts ?» dans la délibération de ces contradictions d'intérêts en vue d'arriver à un arbitrage. Et moi, quand j'ai découvert cette définition de la démocratie, je me suis dit, mais oui, c'est exactement ma vision, c'est qu'on est tous différents, on a tous des points de vue différents, des intérêts différents, mais on est tous dans le même bateau, et malgré tout, il faut qu'on arrive à avancer. Et puis après, tu as la réalité du conseil municipal. Donc le conseil municipal, hein, c'est une réunion, c'est une fois par mois, ça dure 3-4 heures. Et si on caricature vraiment, quelquefois, ça peut un petit peu ressembler à ça.
Oui. J'ai pas de son, Saïd. Tu peux mettre un peu de son Oui, chers collègues. Oui, on va passer au point numéro 9 de l'ordre du jour. Vous savez, concernant l'achat de terrain, on s'était dit
que ce serait bien qu'on achète des terrains pour pouvoir créer un nouveau lotissement, pour pouvoir accueillir des familles, là, pour sauver l'école. Donc là, il y a un privé qui est intéressé pour nous vendre du terrain à 10 euros le mètre carré, à 5 000 mètres carrés, ça fait 50 000 euros. Donc il faudrait qu'on prenne une délibération ce soir, que vous m'autorisiez à aller signer les papiers chez le notaire la semaine prochaine. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. On va passer au point suivant.